Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Surprise à la CGT avec l'élection surprise d'une femme cadre de 41 ans qui va succéder à Philippe Martinez à la tête du syndicat. Son nom, Sophie Binet, un nom qu'il va falloir apprendre à connaître. L'Info C'est Clair est intitulé CGT, coup de théâtre. Nos invités, Michel Noblecourt, vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des syndicats et de la gauche, co-auteur du livre « Le dialogue social en France », c'est aux éditions Odile Jacob. Roland Cayrol, politologue, directeur conseil de Région Magazine, et je cite le titre de votre livre qui sort mercredi prochain, « Mon voyage au cœur de la Ve République », c'est aux éditions Calmann-Lévy. Et puis Jean Garrigue, vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Élysée contre Matignon, de 58 à nos jours », c'est aux éditions Talendier. Merci de participer à cette émission en direct. Alors on va partir dans quelques minutes à Clermont-Ferrand, en direct du 53e congrès de la CGT, avec cette surprise, le temps que notre correspondante, Éléonore Bailly... Ah, bah ça y est, elle est là, me dit-on. Alors, Éléonore Bailly, vous êtes en direct de Clermont-Ferrand. Donc, c'est une surprise, parce qu'on attendait, soit Marie Buisson, soit Céline Verzetti. Et finalement, c'est un troisième nom, peu connu, qui est tombé et qui a emporté le morceau, si je puis dire.
Mais tout à fait, Axel. Effectivement, ici à Clermont-Ferrand, rien ne se passe comme prévu dans un congrès qui finalement aura été très riche en rebondissements. Effectivement, comme vous le disiez, les deux candidates qui tenaient encore la corde hier soir donc, ne seraient plus en lice. Marie Buisson et Céline Verzelletti n'auraient pas été retenues par le Parlement de la CGT. Et le nom qui circule actuellement, c'est celui de Sophie Binet. Alors Sophie Binet, elle est responsable d'un syndicat de cadres. Elle est surtout très jeune, une quarantaine d'années. Si c'est elle qui effectivement est élue, si effectivement ce nom est confirmé d'ici une trentaine de minutes, quelle ligne va-t-elle donner à la CGT? L'élection est scrutée à la loupe dans le cadre de la réforme des retraites et de l'intersyndicale qui doit se rendre à Matignon en début de semaine prochaine. Résultat d'ici une trentaine de minutes maintenant.
Voilà, et vous avez raison de rester prudente, Éléonore Bailly, parce que ça n'est pas, même si ça fuite partout, hein, l'AFP, tout le monde annonce déjà l'avenue de Sophie Binet, mais le nom n'est pas encore officiellement entériné. Michel Noblecourt, alors c'est une surprise et c'est le signe de quoi? Alors je rappelle le parcours de Sophie Binet, elle a 42 ans et elle représente les cadres, elle est représentante du UGICT CGT. Déjà, le mot cadre, on se dit, c'est un statut peu compatible avec la radicalité qui semblait animer le syndicat en ce moment.
Oui, tout à fait. Je dirais que c'est une double surprise, cette élection de Sophie Binet, parce que l'UGICT, l'organisation de cadres dont elle est la secrétaire générale, était plutôt mal vu par la Confédération, qu'on n'aimait pas trop les cadres, parce que c'était plutôt des empêcheurs de tourner en rond, si je puis dire, un petit peu des aiguillons, des poils à gratter. Enfin, ils jouaient moins ce rôle ces dernières années, mais ils l'ont été pendant pas mal de temps. Et donc, pas mal de fédérations, de grosses fédérations de la CGT n'aiment pas l'UGICT. Et Sophie Binet a un profil qui est un peu atypique, effectivement, de ce point de vue. Et
Vous l'avez interrogée plusieurs fois.
Je l'ai rencontrée plusieurs fois. À une époque, elle était effectivement un peu en bisbille avec la direction confédérale, surtout à l'époque du prédécesseur de Philippe Martinez, Thierry Lepan, qui a fait un passage éclair. Pour les raisons pour la direction de la CGT. Elle a été pendant un temps membre du Parti Socialiste. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose de bien porté à la CGT. Elle a quitté le Parti Socialiste depuis. Après, la question, donc effectivement, c'est de savoir quelle ligne elle va incarner, parce qu'on connaissait la ligne de Verzelletti, qui était une ligne plus radicale, la ligne Buisson, qui était dans la continuité de Philippe Martinez. Sophie Binet, on ne sait pas bien, a priori, elle ne devrait pas être sur une ligne radicale, elle devrait essayer de rassembler, de réunir une organisation fracturée, une organisation quasiment coupée.
C'est le signe de quoi, d'ailleurs? Parce que d'habitude, vous me le disiez avant le début de cette émission, D'habitude, on connaissait à l'avance, non ? C'était réglé à l'avance, les noms des...
Pendant tout un temps, jusqu'en 1992 inclus, c'était le Parti communiste qui choisissait le secrétaire général de la CGT. Donc c'était quand même plus simple. Les choses se passaient mieux. Après, la CGT, avec Louis Vianney, la CGT a pris ses distances vis-à-vis du Parti communiste. Et donc, depuis, c'est la CGT qui désigne son dirigeant. Et ça se passe bien. Ça se passe pas bien. Bernard Thibault avait raté sa succession il y a 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que la CGT est en crise. Quand même. Bernard Thibault a raté. Il voulait lui aussi mettre une femme à la tête de la CGT. Il a été battu par son Parlement, par son Comité confédéral national.
Marie Buisson.
Non, c'était pas Marie Buisson.
Ah non, c'était Nadine Prigent. Je parlais de Bernard Thibault, pardon, excusez-moi.
C'était Nadine Prigent à l'époque. Oui, et donc après, du coup, il a été, Thierry Lepan a été élu par défaut. D'accord. Bon, c'est ce que ça a donné. Et ensuite, donc, on a eu le droit à l'élection qui s'est déroulée aussi dans des conditions un petit peu controversées, on va dire, contestables, de Philippe Martinez.
Roland Cayrol, on peut dire que c'est un choix par défaut. C'est le signe de quoi ? Que se passe-t-il à la CGT ?
Bah, c'est, comme le vient de dire Michel, c'est le signe d'une crise profonde. On a bien vu monter pendant ces années Martinez, et singulièrement dans les dernières années, depuis les Gilets jaunes et l'affaire des retraites, on a bien vu monter deux courants s'opposant, grosso modo, dans la centrale. Ceux qui, comme Martinez, faisait le boulot de dirigeant de la centrale, de la CGT, portant son histoire, mais avec des inflexions très fortes du côté de la société civile. La volonté de construire avec Greenpeace, avec des associations du mouvement de la société civile, s'intéresser aux questions féministes, s'intéresser aux questions écologiques, voilà, moderniser une CGT qui était restée un peu arc-boutée sur ses fondamentaux de lutte de classe, oui. Et en suscitant en cela des réactions d'une aile qu'on pourrait appeler plus dure, plus traditionnaliste, très présente dans la chimie, dans l'énergie, dans des fédérations comme les Bouches-du-Rhône, voilà, pour lesquelles on reconnaissait plus à Cégette, quoi. Et il y avait ce reproche qui a été aggravé par la pratique de l'unité syndicale dans la bataille sur les retraites, où on a eu le sentiment qu'on faisait trop la place à Laurent Berger, trop la place à la CFDT, trop la place aux réformistes, que tout ça était trop mou. Et le climat du premier jour là, du congrès de la CGT a été très marqué par cette présence de gens qui n'étaient pas à l'aise avec cette ligne moderniste. Et donc, moins encore, avec l'idée de donner une successeur, une femme en plus, c'est quand même... Encore une organisation qui a une forte tradition machiste.
Et ouvriériste.
Et ouvriériste. Alors, c'est ça, une femme enseignante. Une femme enseignante, c'était beaucoup. Bon, il fallait évidemment trouver une solution intermédiaire, puisque chacun avait son candidat. Et que dans ces cas-là, c'est aucun des deux qui l'emporte. Il faut trouver un moyen de sauver la face. Donc, on a, je pense, d'abord cherché une femme pour montrer que c'était pas là-dessus que je faisais vraiment le divorce. Bon, on a trouvé une femme de l'UGIC, ça vraiment c'est tout à fait une surprise, je trouve. Moi, comme homme d'études, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de travailler avec l'UGIC. Bon, c'est un peu un état dans l'état dans la CGT, y compris sur le plan idéologique, il y a eu pas mal de discussions assez poussées sur des points très importants du fonctionnement de la société française. C'est les cadres, quoi. C'est dans une maison où la culture est une culture ouvrière. C'est les cadres, ils sont eux très fiers d'être rattachés à l'organisation ouvrière principale, mais c'est un peu inattendu de ce point de vue, et elle ne peut pas, elle, faire autre chose qu'un véritable accord entre ce qu'on pourrait appeler les modernistes et les traditionalistes.
Jean Garrigue, c'est vrai qu'en 128 ans d'existence, pour la première fois, la CGT va être dirigée par une femme. Sophie Binet, 41 ans, va devoir donc s'imposer face à deux puissante fédération. On sait que le féminisme n'est pas une cause qui fait consensus au sein de la CGT. D'ailleurs, c'est ce que disait Roland Cayrol à l'instant, on reprochait à Marie Buisson, qui était la candidate de Philippe Martinez, d'être un peu trop sur ses thèses progressistes, on va dire, le féminisme, Greenpeace, voire le wokisme, je ne sais pas quelles sont les thèses qui pouvaient lui être reprochées.
Mais c'est tout le paradoxe de ce qui s'est passé, parce que, comme le disait Michel Noblecourt, déjà en son temps, Bernard Thibault avait essayé d'avoir une femme pour lui succéder, ça n'a pas réussi. Mais le paradoxe, c'est d'avoir vu ressurgir avec Olivier Matteux, une sensibilité qui renvoyait aux origines même de la CGT, c'est-à-dire à la charte d'Amiens de 1906, où on entend d'abord se fonder sur la lutte des classes et faire du syndicat une arme politique, et je dirais révolutionnaire. Et à la faveur donc de cette crise des retraites, il y a cette impression, c'est finalement très, j'allais dire, réactionnaire au sens du retour en arrière qui a ressurgi. Et puis on se retrouve avec l'échec de la candidate de Philippe Martinez, avec au contraire quelque chose d'extrêmement novateur, j'allais dire, pour cette centrale, c'est-à-dire une candidate de l'UGIC, quelqu'un qui représente les cadres, qui de surcroît est une ancienne du Parti Socialiste, qu'à la limite, on aurait peut-être...
Elle est un peu centriste, quoi.
On aurait peut-être pu la retrouver plutôt à la CFDT qu'à la CGT. Ouais. C'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit. Bon, si elle est à la CGT, c'est qu'elle a des bonnes raisons pour le faire et qu'elle incarne aussi une sensibilité qui est peut-être plus combative, qui est moins dans la négociation, dans le réformisme, comme l'a été la sensibilité de la CFDT. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que de manière générationnelle, par les idées qu'elle a portées jusqu'à présent, forcément, même si elle va être une candidate de rassemblement, et donc qu'elle devra tenir compte des plus radicaux, des plus conservateurs, au sens de je conserve l'héritage, mais de manière implicite, de toute manière, elle va incarner quelque chose du renouveau. Peut-être même que ça pourrait être une chance pour la CGT, en tout cas pour l'image de la CGT. Voilà, ça pose beaucoup de questions.
En attendant, nous étions ces derniers jours déjà à Clermont-Ferrand pour interviewer des CGTistes en vue de la préparation de ce congrès. Vous disiez tout à l'heure que Sophie Binet aurait pu être à la CFDT. Ben, nous avons interrogé un syndicaliste CGTiste pour qui la CFDT... C'est le mal absolu, et d'ailleurs, il en veut beaucoup à cet intersyndical. Pour lui, il n'y a que l'ADN révolutionnaire de la CGT qui vaille. On écoute ce témoignage.
En tant que syndiqué CGT, je n'accepte pas qu'on participe à cette mascarade convoquée par Elisabeth Borne. Elle a craché, littéralement, j'utilise le mot craché avec conviction, elle a craché sur l'ensemble des luttes, l'ensemble des grévistes, l'ensemble de notre mouvement et l'ensemble des travailleurs en France. Donc il n'y a aucun intérêt à lui répondre. Nous sommes en force, nous sommes en grève, donc il n'y a pas d'intérêt à lui répondre. Après, sur la question de l'intersyndicale, nous, on est là pour faire avancer la CGT, parce que seule la CGT porte le projet d'émancipation. Et que les autres syndicats, ils ne le portent pas aussi bien que nous, et qu'ils ne le portent même pas. En face, ils ne comprennent que le pognon. Et le problème, c'est que je pense que dans l'intersyndicale, il y a des syndicats qui n'ont pas compris cette équation, et qui du coup tirent des cas de fer le mouvement en arrière.
Michel Noblecourt, alors on se dit que l'intersyndicale est en danger quand on entend...
L'intersyndicale est en danger, elle aurait été encore plus en danger si ça avait été Céline Verzelletti, parce que Céline Verzelletti avait indiqué qu'elle était défavorable à toute pause, à toute médiation, donc il n'est pas sûr qu'avec elle à la tête de la CGT, celle-ci serait allée à Matignon. Il faut savoir que hier a été adopté un appel du Congrès qui a été voté très largement, visiblement, qui justement récuse toute pause et toute médiation. Donc ça augure mal d'une éventuelle venue de la CGT à Matignon. Maintenant, Sophie Binet, elle devrait plutôt être quelqu'un qui accepterait de jouer ce jeu et qui va tenter de relancer un peu l'intersyndicale.
Sophie Binet, je veux dire, c'est plus la CGT qui est en crise que l'intersyndicale.
Oui, c'est plus la CGT qui est en crise, mais l'intersyndicale aurait pu être en crise aussi, quoi, parce que c'était un moment difficile où les choses vont falloir comment terminer une grève, comme disait Maurice Thorez. Et donc, si vous voulez, le profil de Sophie Binet est intéressant parce que c'est une cadre, c'est plutôt une moderniste. Je dirais plutôt une réformiste combative, on va dire, quoi. Et donc la CGT a besoin de se développer chez les cadres. C'est chez les cadres qu'elle perd des voix depuis des années dans les élections professionnelles.
Au donc profit c'est une chance d'insuffler un coup de jeune.
D'une manière, oui, parce que si le problème de la CGT, c'est de mettre l'accent sur le développement. La CGT a perdu beaucoup d'adhérents. Elle a été détrônée par la CFDT sur la première place des organisations syndicales. Donc il faut qu'elle regagne du terrain. Et pour le regagner, ce n'est pas un discours ouvriériste qui va marcher. C'est s'adresser au cadre. Et donc Sophie Binet, de ce point de vue-là, elle est idéalement bien placée.
Roland Cayrol, de votre point de vue, pour le gouvernement, alors est-ce que l'élection de Sophie Binet est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ou est-ce que la crise à la CGT, de ce point de vue, peut détourner les regards et affaiblir l'unité syndicale en vue, parce que jeudi prochain, il y a une nouvelle journée d'action à l'appel de... des syndicats, et ils doivent rencontrer en début de semaine Elisabeth Borne.
Je crois que sur le fond, je dirais un peu pareil que Michel, c'est la bonne nouvelle, c'est l'échec de Verzelletti. Ça bloquait pour le coup toute mécanique sérieuse de négociation sur le fond, évidemment sur les retraites, mais peut-être aussi sur la loi travail qui va être en préparation. Donc,
Verzelletti qui incarnait la branche dure, le courant dur.
Une branche vraiment traditionnelle, méfiante à l'égard de l'unité syndicale elle-même. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour tous les modérés de ce pays que de voir quelqu'un de Lugic et Sophie Brunet à la tête de la CGT, si c'est confirmé dans la demi-heure. Évidemment, chez elle, il y aura la volonté de préserver l'unité syndicale. Je le crois, parce que c'est ce qui aussi qualifie aujourd'hui la modernité de la CGT. Ah. Le fait d'être sorti de cette espèce de position de chien de faïence avec la CFDT, dont on sentait, même quand ils faisaient des trucs ensemble, que ça frottait toujours, qu'il fallait toujours relire trois fois chaque ligne pour être sûr que l'autre vous faisait pas une entourloupe, etc. Voilà. Là, on s'est habitué à ces deux mois d'intersyndicale et ça fait partie de la nouvelle image. Donc, je crois qu'elle va jouer ça, qu'elle va jouer en même temps la carte de la femme qu'elle est, qui, en soi-même, est un renouvellement pour la CGT tout à fait intéressant. Voilà, je crois que tout en essayant de tenir les deux camps, parce qu'elle est là pour faire la synthèse et pour représenter tout le monde, elle va forcément être attirée par la sensibilité qui doit être la sienne en profondeur, qui est celle, en effet, de la modernité et de la recherche de l'unité. Je ne la vois pas s'engueuler avec Laurent Berger en lui disant « t'es trop mou, faut aller plus loin ». Voilà, ça va continuer dans un dialogue à la Martinez, avec ses qualités personnelles à elle, un peu différemment. Mais je crois que c'est, de ce point de vue, une bonne chose pour l'idée de la négociation sociale.
Jean Garrigue, on a vu hier le chef de l'État dans les Hautes-Alpes en train de parler sécheresse, en train de parler écologie, justement. Donc, est-ce qu'on peut considérer, si vous aviez un pari à prendre, que le mouvement de contestation est plutôt en train de s'effilocher? D'ailleurs, il y avait moins de monde dans les rues mardi dernier.
Oui, il y a un autre indice de cet effilochage, c'est la position, justement, de celui qui apparaît aujourd'hui comme le leader de l'intersyndicale, c'est-à-dire Laurent Berger, ce qui pose d'ailleurs question à la CGT. Laurent Berger a choisi, avant même toute décision de l'intersyndicale, d'aller au rendez-vous posé par Elisabeth Borne sur le projet de loi travail. Donc, on voit très bien que le leadership là, s'incarne de plus en plus dans l'esprit de l'opinion autour de Laurent Berger. Et d'ailleurs, la CFDT est devenue la première centrale syndicale de France. Donc, il y a un vrai défi. Et quelque part, effectivement, si la CGT veut essayer de coller justement à cette modernité du syndicalisme français, qui a toujours été un peu une exception par rapport à nos voisins, forcément, il va falloir que Sophie Binet infléchisse vers justement ces thématiques-là, écologiques, d'égalité homme-femme, etc. Je pense que c'est... Pour eux, aujourd'hui, c'est quand même un enjeu très, très important, parce que sinon, la descente, en dépit de ce qui s'est passé, qui a quand même montré une sorte de rejaillissement du fait syndical, sinon, la chute pourrait être inexorable. Donc, forcément, il y a un terrain à reconstruire, et ça passe par, justement, une attitude plus réformiste, une possibilité d'intersyndicale plus renforcée, enfin, des alliances avec la CFDT. Je vois pas d'autres solutions pour eux aujourd'hui, même si le témoignage que vous avez montré là de cette orthodoxie radicale de certains militants, à mon sens, aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse. Globalement, ils sont en perte de vitesse.
Il pourrait y avoir, Nicolas Noblecourt, un éclatement de la CGT, une partie allant vers, puisque vous disiez tout à l'heure, elle aurait pu être à la CFDT, vers la CFDT, et puis l'autre allant vers Sud. Allez, quitte à être radical, autant...
Le problème, effectivement, c'est les organisations les plus radicales de la CGT, savoir comment on va se positionner, parce que...
La CGT Pétrole, par exemple, qui a été à la manœuvre, parce que pendant ce conflit, ce qu'on a retenu, c'est non pas les transports publics à l'arrêt, mais ce sont les stations essence en pénurie.
Oui, mais parce que une organisation comme la CGT Chimie est une organisation qui est très radicale, qui est membre de la Fédération syndicale mondiale, la FSM, qui n'est plus qu'un squelette aujourd'hui, où il y a la Corée du Nord, la Syrie, Cuba, enfin bon.
Et il y a la CGT Pétrole, Chimie.
Et la CGT Chimie, il y a la CGT démocratie. Commerce, il y a la CGT des Bouches-du-Rhône, l'Olivier Matteux qui voulait se présenter à la tête de la CGT, voulait faire adhérer l'Union départementale des Bouches-du-Rhône à la FSM, de même que l'Union départementale du Val-de-Marne. Donc c'est des organisations très radicales qui ne se reconnaissent pas du tout dans une... à la fois dans l'intersyndicale et dans toute action commune avec la CFDT.
Donc là, Sophie Binet, ils l'ont mauvaise.
C'est l'ennemi. Là, ils l'ont forcément mauvaise. Alors, je ne sais pas comment ils se sont positionnés au niveau du vote. Ils ont voté contre elle ou s'ils se sont abstenus. Mais elle va devoir tenir compte de ça, quand même, Sophie Binet. Elle va tenir compte du fait qu'il y a toujours une aile, sauf si cette aile va quitte la CGT, effectivement, va ailleurs, recrée une CGTU, ou je ne sais pas, ou va à Sud. Mais même si Sud est plutôt moins radical aujourd'hui qu'ils ne l'ont été. Donc elle est obligée de rassembler, elle est obligée de faire une synthèse, effectivement, sur une ligne qui est la sienne, qui est une ligne plutôt, donc je disais, moderniste, plutôt réformiste. Mais
ce ne sera pas facile à vous entendre.
Parce que la CGT, c'est pas facile de gouverner la CGT. Et puis, on est quand même dans une période où, de plus en plus, ces derniers temps, justement, compte tenu de ce qui se passait au niveau national, au niveau central, beaucoup plus de fédérations ont pris leur autonomie et vivent leur vie, quoi. Donc, elles tiennent plus ou moins compte de ce que veut la direction de la CGT à Montreuil. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les syndicats dans les entreprises. C'est pas la direction confédérale. Les syndicats dans les entreprises CGT, ils signent 85% des accords. 85%.
Il y a une dichotomie
accords.
Entre la radicalité totalement. À Montreuil et le pragmatisme dans les entreprises. Roland Cayrol, on parle beaucoup de la radicalisation de la France insoumise dans les partis politiques. Est-ce qu'au fond, la caractéristique de la CGT, c'est qu'elle n'a pas voulu justement, contrairement à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, se laisser aller dans cette radicalité même du verbe ou des actions? Est-ce qu'il y a un désir de radicalité à gauche qu'aurait épousé le parti politique la France insoumise et qu'aurait refusé la CGT de Philippe Martinez?
Il y a un désir de radicalité à gauche qui existe dans la CGT, mais qui ne les porte pas, ni les uns ni les autres, tellement du côté des eaux de la France insoumise. Comment dire? Ils ne les aiment pas trop. Et le personnage de Mélenchon les insupporte parce qu'il a le sentiment qu'il veut un peu mettre la main sur la stratégie du mouvement social, qu'il veut empêcher le syndicat.
C'est souvent le cas.
Oui. Donc quand vous regardez les débats de l'actuel congrès de la CGT, vous voyez que ce bloc qui se veut plus révolutionnaire, il parle bien d'autres organisations avec lesquelles il faudrait se rapprocher, mais il parle de Sud et de Solidaires. C'est-à-dire, arrêtons de regarder du côté de la CFDT, arrêtons ce binôme ridicule, Martinez-Berger, c'est faire l'alliance quasiment avec l'ennemi de classe. Regardons plutôt ce qui se passe du côté de Sud et de Solidaires. Donc, moi, je suis pas ceux qui pensent qu'il va y avoir très vite une scission. C'est très compliqué d'organiser des scissions dans des maison aussi fortement organisée, et puis ça c'est déjà fait, mais s'il y a des actions communes à envisager en priorité par ce genre de militants, c'est pas avec la France insoumise, c'est avec Sud et Solidaires.
Alors, justement, vous le disiez tout à l'heure, Jean Garrigue, la CGT n'est plus le premier syndicat de France, ça s'est passé en 2018, elle a été dépassée par la CFDT, donc que faut-il en conclure du bilan de Philippe Martinez, car quand il est arrivé au pouvoir, aux manettes, eh bien, la CGT était le premier syndicat de France. Son bilan avec Nathan Ramérisson et Arnaud de la Taille.
C'est l'un des visages de l'opposition à la réforme des retraites. Une moustache identifiable qui a fait son image. Philippe Martinez vit son dernier combat à la tête de la CGT. Lui, le secrétaire général de la CGT depuis 8 ans, va passer la main. 2015, Philippe Martinez succède à Thierry Lepan. Une désignation sur fond de crise à la Confédération. Métallurgiste, syndiqué depuis 1984, il s'emploie à se faire connaître. Lors du congrès de 2016, il est reconduit à la tête de l'organisation syndicale.
La CGT est bien présente dans le paysage social français. C'est la première organisation syndicale de notre pays et elle compte bien le rester.
Il va alors imposer une ligne dure en pleine loi travail, portée par Myriam El Khomri.
On connaît la façon de négocier le volontariat. C'est soit tu travailles le dimanche, soit tu travailles pas.
Contesté en interne pour une absence d'opposition claire sur les gilets jaunes ou le manque d'opposition au gouvernement, il sera tout de même réélu en 2019.
On vous reproche quand même parfois d'agir un peu seul.
Je ne comprends pas le sens de votre question.
En 8 ans de mandat, le secrétaire général n'aura pas su enrayer la chute du nombre d'adhérents et aura vu la CGT perdre son statut de première confédération de France au profit de la CFDT en 2018. Autant de défis ajoutés à celui de la réforme des retraites que devra gérer le ou la nouvelle secrétaire générale de la CGT.
Michel Noblecourt, comment analyser ce déclin de la CGT ? Philippe Martinez a raté quelque chose ou c'était mission impossible ?
Avec Bernard Thibault, quand Bernard Thibault a été élu secrétaire général en 1999, il a voulu effectivement poursuivre le décrochage de la CGT par rapport au Parti communiste pour ne pas être entraîné dans le déclin du Parti communiste. Et donc, il avait un objectif pendant un temps qui était d'arriver à trouver un million d'adhérents.
On est à 600 000.
Il faut se souvenir d'une époque en 1975 où la CGT avait 1,8 million d'adhérents et l'objectif était 3 millions d'adhérents. Donc tout ça, tous ces rêves-là fous, un peu fous, ont été abandonnés. Le million d'adhérents n'a évidemment pas été tenu. Donc il a essayé d'enrayer le déclin de la CGT, mais ensuite ça n'a pas suivi. Donc la mutation amorcée par Bernard Thibault s'est arrêtée avec son départ. L'épisode calamiteux du passage de Thierry Le Pen à la tête de cette organisation. Et Philippe Martinez s'est fait élire sur une ligne dure. Il ne faut pas oublier ça. On l'oublie un peu aujourd'hui. Il est sur une ligne radicale. La CGT de Philippe Martinez, elle n'allait quasiment pas à l'Élysée. Elle n'allait pas à Matignon. Elle ne participait pas aux négociations. Elle ne signait pas d'accord au niveau national. Elle ne participait pas vraiment aux concertations qui étaient menées. Le changement qu'il a opéré, Philippe Martinez, je dirais dans la dernière ligne droite sur la réforme des retraites, où il a accepté de jouer le jeu de l'intersyndical, de passer quand même de fait sous la coupe de Laurent Berger, alors qu'il faut se souvenir que pendant tout un temps, à une époque où les relations étaient désastreuses entre la CGT et la CFDT, Laurent Berger ne pouvait pas mettre les pieds au siège de la CGT à Montreuil. Tellement la CFDT était détestée par un certain nombre d'organisations de ce syndicat. Donc effectivement, Philippe Martinez a un bilan... Je dirais assez...
En vous écoutant, je me dis que c'est un peu le Gorbatchev. On pourrait l'accuser d'être le Gorbatchev de la CGT.
Ben, le Gorbatchev, ça a mal tourné parce que finalement, ça a abouti à la disparition de l'Union soviétique. Donc,
Et alors, la CGT, elle vous semble dans quel état là, ce matin?
Je pense qu'elle est en très mauvais état. Elle est en très, très mauvais état parce que son déclin a été continu au cours de ces dernières années. Donc, on aura de nouvelles mesures de représentativité qui va confirmer certainement ce déclin. C'est pas la CFDT qui a progressé tellement finalement, c'est la CFDT doit sa première place au fait que la CGT a reculé. Donc effectivement, le pari, l'élection de Sophie Binet peut être encore une fois intéressante parce que peut-être qu'elle peut redonner des couleurs à la CGT, notamment chez les cadres.
Un chamboule-tout un peu, hein.
Ça peut être un chamboule-tout. Alors après, ça dépend de la marge de manœuvre qu'elle va avoir. On ne connaît pas les marges de manœuvre qu'aurait Sophie Binet.
Michel Noblecourt, comment expliquer ? Ils avaient l'air d'être complices, Philippe Martinez et Laurent Berger. Philippe Martinez n'est pas jaloux ou n'en veut pas à Laurent Berger qui lui a volé sa place de numéro 1. Et il sait très bien que s'il est en difficulté, c'est parce que quand il est arrivé, il était numéro 1. Maintenant, c'est Laurent Berger.
Oui, bien sûr, parce que Philippe Martinez a reconnu, sait reconnaître les réalités. Il a un côté pragmatique quand même. Donc, il a reconnu que la CFDT, effectivement, avait gagné le match. Donc, qu'il fallait en tenir compte. Et j'ajouterai un autre élément qui est qu'on met moins en avant, mais il y a toujours eu une très bonne entente sur un plan personnel entre Philippe Martinez et Laurent Berger. Ils s'entendent bien. Alors, ils étaient obligés de se voir en dehors de la CGT, hein, dans des arrière-salles de café, quoi que ce soit, pour que personne ne les voit.
Ah oui ?
Ah oui, tout à fait. Mais ils ont une bonne entente, ils s'entendent bien, ils s'estiment personnellement l'un et l'autre. Donc, ça facilitait les choses. Et puis, il a voulu soigner sa sortie, si je puis dire. Bon, peut-être que. Il ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit Sophie Binet qui lui
succède. Il en a gros sur la patate ce matin, sûrement.
Oh, bah, je pense que ce ne sera pas pour lui un bon anniversaire, qu'il va avoir 62 ans demain.
Il a 62 ans demain et il part à la retraite. Il est cohérent avec ses combats.
Il a 62 ans demain, demain 1er avril, qui est aussi l'anniversaire des 60 ans, 1er avril 1983.
La retraite à 60 ans.
De la retraite à 60 ans.
La retraite à 60 ans. Donc, c'est un double anniversaire pour Philippe Martinez.
Vous avez fait une comparaison avec Gorbatchev, la glasnost ou la perestroïka, mais ce serait plutôt peut-être à Sophie Binet d'incarner ça. Oui. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que finalement, Philippe Martinez, il a entériné une sorte de fin de règne quelque part, une manière de faire du syndicalisme dont on voit bien qu'aujourd'hui, elle est très érodée. D'une part, d'un côté, par le syndicalisme de négociation et de réforme de la CFDT, c'est pas nouveau, hein, mais, et d'ailleurs, tous les présidents qui ont eu l'intelligence de faire des réformes des retraites, ils l'ont fait en négociant notamment avec la CFDT, ce qui est, à mon sens, la grande erreur d'Emmanuel Macron. Enfin, je suis pas le seul à le dire et à le penser.
De ne pas l'avoir fait.
Et je dirais même d'ailleurs que, à mon sens, Emmanuel Macron donnait précisément une chance, une opportunité historique à la CGT dès le début d'ailleurs, en écartant le dialogue historique avec la CFDT.
Il donnait raison à la branche dure de la CFDT en disant, il n'y a rien à attendre du pouvoir.
Il y avait peut-être là une opportunité. Sauf que cette opportunité, elle était en contradiction aussi avec l'évolution des mentalités, c'est-à-dire à la fois un besoin justement d'un syndicalisme plus moderne, de réforme, et de l'autre côté, une radicalisation, une forme de gilet jaunisation du mouvement social qui vous fait sortir des cadres du syndicalisme lui-même. Parce que derrière la crise de la CGT, il y a peut-être aussi une interrogation sur la crise du syndicalisme, des mouvements syndicaux, dans leur capacité à s'approprier la révolte sociale.
Alors justement,
il y a tous ces problèmes qui se posent.
Ben, l'une des illustrations de ce que vous dites, cette incapacité des syndicats et de la CGT à incarner aujourd'hui la contestation sociale, on l'a vu de façon très physique lors des défilés du 1er mai, où la CGT a été conspuée et où Philippe Martinez a même dû être exfiltré lors d'un défilé du 1er mai. Vous voyez, c'était le 1er mai 2021. On regarde ce sujet.
Des fourgons de la CGT saccagés, victimes de jets de pierres et de bouteilles. Sur la carrosserie, ce tag explicite CGT collabo et des militants encore en état de choc face à une violence qu'ils jugent inédite.
Ça fait des années que je suis qu'on fait des manifs. Hein. J'ai jamais vu ça.
Je me suis fait insulter de plein de choses dans ma vie. Et alors jamais d'être collabo du gouvernement. Jamais.
Hier, 17h30, le cortège syndical est pris à partie par des gilets jaunes et des individus cagoulés. Des bagarres éclatent, puis les insultes fusent. Débordé, le service d'ordre de la CGT se replie. Les véhicules tentent de s'enfuir, mais ils sont coincés entre les barrages de CRS et la foule toujours plus hostile. La CGT haït indésirable, et ça n'est pas la première fois. 1er mai 2018, un black bloc noyaute la tête de cortège, dégrade plusieurs magasins et restaurants devant des syndicats impuissants. Un an plus tard, pris dans les affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre, le leader Philippe Martinez est exfiltré et les militants doivent remballer à la hâte leur matériel.
Et jamais vu ça de ma vie, jamais, jamais. Même en 68, c'était même pas pire que ça.
Roland Kayrol, CGT collabo. Il n'en revenait pas, ce syndicaliste.
Mais pourtant, c'est une assez vieille histoire entre toute une partie de l'extrême-gauche et la CGT. Il y a des traditions dans l'extrême-gauche. Il y a une partie de l'extrême-gauche ouvrière qui est membre de la CGT. Mais il y en a qui pensent que c'est l'organisation stalinienne par excellence, l'organisation archaïque, une organisation arc-boutée sur une conception antique de la lutte sociale. Beaucoup de trotskistes, quand ils sont syndiqués, sont plutôt à Force ouvrière pour ne pas être à la CGT. Les trotskistes représentent un courant extrêmement important. On ne peut pas élire un secrétaire général à Force ouvrière sans l'appoint des voix trotskistes internes. Et ceux qui viennent des autres mouvements, des anarchistes, des maoïstes, ont toujours dénoncé les cortèges de la CGT et dénoncé cette organisation stale. Donc il y a réellement là quelque chose qui est très fort dans la radicalité d'extrême-gauche. on ne peut pas, on considère pas la CGT comme un grand frère, mais comme quelqu'un qui oublie les données fondamentales de la lutte des classes. Alors, on est toujours le révolutionnaire de quelqu'un. La CGT fait le même type de reproche à la CFDT, aux syndicats réformistes, mais sur son extrême gauche, alors c'est moins grave parce que c'est numériquement beaucoup moins important, mais elle a aussi ce type de critique.
Michel Noblecourt, c'est vrai qu'on sait que les Black Blocs sont rejetés par les services d'ordre de la CGT. Quelque part, c'est aussi le syndicat de l'ordre, c'est un syndicat carré, c'est un syndicat qui n'aime pas bordéliser les défilés, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, et c'est ce qui lui est parfois reproché par les éléments les plus extrémistes. Le service d'ordre de la CGT, c'est quelque chose ?
Ah ben, le service d'ordre de la CGT, c'est quelque chose. En tout cas, c'était quelque chose. Ça n'est plus forcément le cas aujourd'hui, parce qu'effectivement, il est souvent débordé, dépassé par des militants plus radicaux ou par les Black Blocs. Mais la CGT, effectivement, a toujours voulu incarner un certain ordre. Je veux dire qu'on conteste, mais on conteste en bon ordre. Donc on ne fait pas la CGT, ça fait longtemps qu'elle ne cherche plus à faire la révolution, hein. En 1968, elle ne voulait pas faire la révolution. Elle voulait même que ça se termine. Ça se termine. Et que le général de Gaulle, qui était un bon ami de l'Union soviétique, s'en sorte bien.
Ouais. Cette radicalité et cette contestation des Gilets jaunes, Jean Garrigue, comment expliquer qu'elle n'ait absolument pas été relayée par la CGT? Au contraire, on a même vu Philippe Martinez dire « Moi, les gens d'extrême droite, ça ne m'intéresse pas ». À un moment, il a fait ce genre de critique. Hein.
Oui, mais c'est là qu'on voyait bien toute la différence. Et surtout, cette manière... Alors, il y a une question de sociologie du mouvement des Gilets jaunes qui était différente des gros bataillons de la CGT, notamment. On voyait des zones périphériques, périurbaines, avec des métiers quelquefois même du privé, etc., qui manifestaient. On voyait des mères de famille, etc. Il y avait une composition sociologique très, très différente des défilés de la CGT. Et puis une manière de concevoir la politique, effectivement, très, très différente, parce que la CGT, c'est une institution. Ça fait depuis 1895 qu'elle existe. Elle a donc une méthodologie, elle a des liens avec le pouvoir, des négociations permanentes surtout dans les coulisses du pouvoir d'ailleurs. Donc tout ça s'est installé et tout ça a explosé au moment de cette crise des Gilets jaunes qui a révélé une autre manière d'intervenir dans le débat public. D'autres aspirations, des modes de fonctionnement, d'ailleurs assez dangereux me semble-t-il pour la fracturation de notre société, qui révèlent en même temps cette fracturation, mais qui ont révélé justement les insuffisances du dialogue social traditionnel, y compris de la CGT, mais aussi de la CFDT d'ailleurs. Donc on a quelque chose là qui a pris de court complètement le syndicalisme, et c'est vrai qu'il n'a pas été du tout, je dirais, récupéré ou accaparé par les mouvements syndicaux, parce que à mon sens ça n'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans le même circuit. C'est vrai que on pourrait se dire qu'historiquement les mouvements syndicaux, notamment la CGT de l'entre-deux-guerres, pouvaient être capables de récupérer comme ça ces mouvements sociaux. J'ajouterai une dernière notation, c'est que n'oublions pas que le premier parti dans la classe ouvrière aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Et ça aussi, par rapport à l'identité et l'implantation d'un mouvement comme la CGT, d'une centrale syndicale comme la CGT, ça pose quand même une question.
Roland Cayrol, est-ce que les syndicats ne devraient pas d'ailleurs davantage s'interroger sur le fait qu'ils ont été incapables de capter, de sentir, de récupérer la colère qui s'est exprimée via les Gilets jaunes? Typiquement, on voyait des mères célibataires sur les ronds-points dire « je ne m'en sors pas, je n'arrive plus à faire le plein » et qui n'avaient visiblement aucune envie de se laisser emporter par le discours syndical CGT ou même CFDTiste. Hein.
Je crois que tous les syndicats sont en réflexion sur leur capacité à embrasser l'ensemble des problèmes de la société française. Ils ont eu des logiciels qui ont longtemps été fondés sur le lieu de travail et sur les négociations collectives. Et on s'aperçoit que comme on l'a beaucoup dit pendant la crise du Covid, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a d'autres choses qui font souffrir, agir, espérer les gens. Et donc cette nécessité de se confronter avec d'abord des couches qu'on a toujours mal représentées au sein du syndicalisme français, type ce qu'on aurait dans d'autres pays appelé les petits blancs des gilets jaunes, quoi. Et puis aux États-Unis. Et puis affronter les domaines qui sont pas, même si on essaye théoriquement de les rattacher toujours à la lutte des classes, mais ces luttes nouvelles, féministes, ces luttes d'inégalité, ces luttes environnementales, dans lesquelles on était mal à l'aise. Et à la CFDT, on a fait un gros progrès là-dessus avant les autres, et ça a payé. C'est aussi une des choses qui ont changé progressivement l'image de la CFDT et sans doute son aura. Et c'est ce que Martinez a compris. Martinez, il a eu un peu le même type d'évolution à la tête de la CGT que son prédécesseur, qui était arrivé aussi sur le tout feu tout flamme après les grèves de la SNCF, considérées comme dures, et qui s'est aperçu que la société changeait et qu'il devait changer avec elle. Et il y a eu pareil pour Martinet. Il a eu 3-4 ans dans lesquels il a continué à agir comme un dirigeant de la cégette de toujours. Et il a été confronté à ces réalités de la société française qui changent et qui, d'une certaine façon, rendent les syndicats un peu ringards s'ils ne s'en occupent pas. S'enfermer dans le seul problème du monde du travail en tant que tel, ben, ça ringardise un peu. Et donc, je crois qu'il y a cette espèce d'obligation de passer à des actes qui montrent que, sans trahir, c'est ça le problème, parce que vous avez toujours un bloc traditionnaliste qui vous dit, attention,
on revendique l'ADN.
La trahison est proche, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, arriver sans susciter des réflexes de trahison a tout de même modernisé la théorie même au nom de laquelle on regarde la société française et les pratiques syndicales.
Il n'empêche, face à ces difficultés des syndicats à embrasser les colères qui s'expriment ça et là, les syndicats ont donné l'impression de se refaire une jeunesse avec ce mouvement de contestation face à la réforme des retraites. Et notamment, ils ont su organiser des caisses de grève pour venir en soutien aux salariés grévistes. Voyez ce sujet de Cécile de la Guérivière et notre bureau de Lyon.
Solidarité pour les grévistes.
Des tirelires lors des blocages pour soutenir financièrement les grévistes amputés de leur salaire.
Muchas gracias.
Des appels aux dons dans les manifestations.
Sur les caisses de grève pour aider les grévistes.
Des dizaines de cagnottes en ligne qui font tourner les compteurs solidaires. Déjà au total, plus de 4 millions d'euros de caisses de grève enregistrées.
Et ça, ce sont les chèques du jour.
Julien Jiquel est l'un des coordinateurs de la plus grosse caisse de grève, celle de l'intersyndicale.
On est à 2 380 000 euros. C'est une très belle somme.
Et les dons vont de quelques euros à des montants beaucoup plus conséquents.
Ah, 3 000 euros. C'est un très gros don. Mais ça fait énormément plaisir.
D'autant plus que c'est le deuxième chèque envoyé en un mois par le même donateur. Jean-François le disait, un ancien professeur de mathématiques vivant à Grenoble. Un militant actif depuis 50 ans, comme en témoigne sa porte.
Vive la grève, oui, en ce moment. Partageons les richesses, c'est pas la misère. C'est un peu l'enjeu actuel, ça aussi.
1 800 euros de retraite et le sentiment que la solidarité est un devoir.
Moi, je ne peux pas faire grève, donc ma façon de soutenir le mouvement, c'est ça, c'est de soutenir financièrement les grévistes, quoi. Et si j'ai fait mes dons en deux temps, c'est parce que justement, je vois que ça dure. Si ça continue, je peux redonner, oui. Je peux redonner.
Michel Noblecourt, il est touchant, il soutient les syndicats, mais il est retraité. Est-ce qu'il n'est pas là, le drame d'ailleurs, c'est que la CGT, c'est en train de devenir un syndicat de retraités.
Ben, ça devient un syndicat de retraités, effectivement, c'est un des éléments de la crise, c'est effectivement le vieillissement des structures de la CGT et le vieillissement général des cadres syndicaux. C'est un phénomène que l'on observe à Force ouvrière, qu'on observe aussi à la CFDT dans une moindre mesure. Et c'est un des éléments de ce qu'on peut appeler quand même la crise du syndicalisme. Il ne faut pas l'oublier. Quoi. Il y a une crise de la CGT, mais il y a aussi une crise du syndicalisme. Il n'y a pas longtemps, Laurent Berger disait « le syndicalisme est mortel ». Effectivement, le syndicalisme est mortel. On a, selon les chiffres officiels, 10% de syndiqués en France. C'est un taux extrêmement bas, extrêmement faible par rapport à tous les autres pays industrialisés. On a des taux les plus faibles. Donc, il y a quand même un problème de crise de la CGT, d'un syndicaliste qui, globalement, a eu du mal à s'adapter au changement de la société, au changement de la composition du salariat, de la montée des cadres, la diminution des ouvriers, et effectivement...
L'individualisme aussi,
qui a beaucoup progressé ces derniers temps.
Avec le télétravail, on est chez soi.
Et le télétravail fait un peu de mal aux syndicats quand même, parce que télétravail, qui dit télétravail, dit éloignement des lieux de travail, et donc éloignement des possibles syndiqués.
Alors, vous parliez du problème du vieillissement des responsables syndicaux. Donc la question, que font les jeunes? Pourquoi ne s'engagent-ils pas? Les jeunes s'engagent, mais ils s'engagent peut-être pour d'autres causes et via dans d'autres mouvements. Voyez ce reportage de Malik Mikhtar.
Aux arbres citoyens, dans plusieurs villes de France, la jeunesse a répondu à l'appel à une nouvelle grève mondiale pour la justice climatique, lancée par le mouvement Fridays for Future, 6 mois après la dernière grande mobilisation mondiale. Et pour ces jeunes Palois, seul un changement radical, systémique, permettra de sortir de la crise climatique. Et l'ennemi numéro un est désigné, le capitalisme.
Nous ne croyons plus à la magie. Le capitalisme n'en est certainement pas. C'est une vermine qu'il faut éliminer.
À Lille, si le changement climatique ne fait pas l'ombre d'un doute, il est une autre réalité qui ne souffre d'aucune contestation. Il faut prendre le problème à bras le corps, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.
Moi, j'estime que c'est hyper important de mobiliser les jeunes parce qu'on est la première et la dernière génération qui vivons les changements climatiques aussi violemment et du coup, on est la dernière génération à pouvoir y faire quelque chose. Donc, c'est à nous de nous faire entendre, c'est à nous de nous mobiliser.
Jean Garrigue, l'engagement, il est toujours là, mais il ne passe plus par les syndicats, mais par des ONG type Youth for Climate ou encore le mouvement de Greta Thunberg, Fridays for Future.
Ah oui, complètement. D'ailleurs, ce vieillissement qu'on constate dans le mouvement syndical, on le constate dans les partis politiques aussi. Donc, on voit bien que c'est général, cette contestation des modes d'expression, des modes d'intervention dans le débat public est quelque chose de généralisé et qu'on peut joindre à l'abstentionnisme de plus en plus important des jeunes au moment des élections. Donc, il y a une critique systémique, je veux dire, de tout ce qui fait intervention publique. Et donc, cette radicalité dont parle la vermine, etc., c'est des mots qu'on a toujours entendus dans la jeunesse, dans chaque génération. À l'époque, c'était l'impérialisme américain au Vietnam et ailleurs qui ont mobilisé les jeunes des années 60. Et aujourd'hui, ils se mobilisent sur des combats. Vous savez, certains sociologues de la politique parlent de la politique post-it, c'est-à-dire sur des combats très, très ponctuels. Et des engagements ponctuels et qui portent aujourd'hui sur effectivement le climat, l'égalité homme-femme, la ségrégation, etc. Des enjeux qui sont plus du tout ceux qui sont portés par les syndicats. Donc il y a une vraie rupture générationnelle. Est-ce qu'elle est durable? On peut pas le dire encore aujourd'hui, mais il y a des thèmes, notamment la thématique de la transition écologique, elle s'impose dans toutes les sociétés et on comprend qu'elle soit beaucoup plus mobilisatrice.
Jean Cayrol, est-ce qu'il y a le risque en l'absence finalement de l'encadrement des syndicats, que ces mouvements ou ces expressions ou ces colères, elles s'expriment parfois ça dérape, type Sainte-Soline où il y avait pas les syndicats, où c'était d'ailleurs des assos beaucoup moins connus qui étaient derrière.
Oui. Juste un mot d'abord pour dire que tout ce qu'a dit Jean est vrai. Il reste que l'image des syndicats, même avant la grève des retraites, est meilleure que celle des partis politiques. Ils ont gardé dans les sondages entre 50 et 55% de sympathie de la part des salariés. Ce qui est, si les partis avaient ça, ils seraient très contents. Avec cette explication qui est donnée toujours aux sondeurs, toujours la même, qui est adhérer, non, nous ne trouvons-nous que 8% d'adhérents à un syndicat quelconque. Adhérer, non, on n'a pas le temps, c'est trop contraignant. Mais ça sert en cas de coup dur. Il y a une espèce de sentiment un peu consumériste de l'utilité du syndicat. Si on a un problème, on sera bien content de trouver le syndicat. Donc ça fournit comme ça un service aux citoyens en cas de problème que les partis politiques sont bien incapables de fournir. Mais c'est vrai que les nouvelles actions des jeunes les conduisent pas vers le syndicalisme, mais les conduisent plutôt vers ces organisations, les antiracistes, ONG, féministes, et surtout sur le climat. Là aussi, la CFDT l'a compris un peu avant, elle a signé un manifeste Jeunesse, avec 32 organisations de la société civile. Et Laurent Berger revient toujours à ses textes, les cite en permanence. Il veut être très présent sur ces fronts, et il l'est. Et Martinez, dans la dernière période, lui a un peu emboîté le pas, hein, notamment l'accord avec Greenpeace, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les fédérations, parce que là, ça s'est commencé à s'allier avec des gens.
Et ils sont très pro-nucléaires à la CGT. Ils sont,
voilà, exactement. Qu'est-ce que les prolos ont à faire avec ces fils de riches qui s'occupent des arbres ici ou là, quoi. Donc, oui, il y a un vrai débat, il y a un vrai défi de la part du syndicalisme français à accepter.
Et ce sera le défi de Sophie Binet, hein, recoller les morceaux du syndicat et rallumer une flamme pour embrasser les nouveaux combats du 21e siècle. Merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter cette élection de Sophie Binet, quasi confirmée, hein, à la tête de la CGT. Vous restez sur France Info tout à l'heure à 17h50. Invité spécial de Patricia Loison, John Kerry, l'ancien candidat à l'élection américaine, qui est aujourd'hui l'envoyé spécial de Joe Biden pour le climat. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouvel Info C'est Clair. Bon week-end, à lundi.